Europa Voice numéro 66, c'est comme chaque épisode, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors on va parler d'Europe, bien entendu, c'est le sujet de ce podcast Europa Voice, mais depuis un petit moment, on parle de coronavirus en Europe. Alors les choses changent presque minute par minute, j'allais dire, en tout cas jour par jour, si ce n'est semaine par semaine. Il y a beaucoup de choses qui changent. Par contre, il y a un objectif en Europe, c'est la relance. La relance économique, c'est vraiment le mot d'ordre de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, même s'il y a le volet sanitaire, mais l'économie reste au centre de tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe.
Oui, Christophe, et vous l'avez dit, hein, il y a le volet sanitaire d'un côté, mais en parallèle de ce volet sanitaire, il y a effectivement l'obligation pour l'Europe, en marge du plan de relance qui a été adopté, de réouvrir les frontières, alors à la fois entre pays européens, hein, au sein de l'espace Schengen, d'unifier les règles des différents pays européens, mais également, Christophe, de relancer la machine hors espace Schengen et de finalement réouvrir l'espace européen aux voyageurs hors Europe pendant cette saison touristique. Et c'est là où les choses deviennent un peu compliquées, Christophe, puisque on le savait, hein, l'Europe avait dans un premier temps fermé une partie de ses frontières, avait fait du cas par cas, et puis là on le voit, hein, ça évolue vraiment tous les jours en raison de cette pandémie de coronavirus. L'Union européenne vraiment ajuste sa liste, alors à la fois de pays qui sont interdits, mais aussi de pays qui sont ce qu'on peut appeler exemptés, Christophe, de restrictions de voyage. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Il y a d'abord les éléments qu'on peut appeler les conditions de réciprocité, par exemple c'est ce qui s'applique avec la Chine. L'Europe veut, alors il y a des raisons évidemment politiques derrière, on en parlera plus tard, mais l'Europe veut mettre en place avec la Chine des conditions de réciprocité pour l'arrivée de ressortissants chinois sur le territoire européen. Et puis après, vous avez au cas par cas, encore une fois Christophe, des conditions de quarantaine, de test, etc., que chaque pays européen est en train de mettre en place et de faire évoluer.
Alors, on sait qu'il y a des pays tels que l'Algérie, par exemple, qui sont beaucoup sur la sellette. Il y a eu le débat autour de l'Algérie, savoir si l'Algérie est un pays sûr ou pas en termes de Covid. Mais d'un point de vue financier et économique, comme je disais, il y a eu des décisions qui ont été prises. On en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode précédent d'Europa Voice. Il y a eu vraiment des décisions fortes d'un point de vue européen pour la relance économique qui est vraiment le moteur européen à l'heure actuelle.
Oui, Christophe, alors vous parlez sûrement de ce plan de 750 milliards d'euros, ce deal qui a été adopté. Alors il faut savoir, on en avait parlé, hein, dans un précédent épisode d'Europa Voice, de ce podcast, Christophe, qu'il y a une partie de ce plan de relance qui va être, j'allais dire, dirigé en priorité vers les pays qui ont le plus souffert de cette crise du Covid-19, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais aussi dans une moindre mesure la France. Et puis, il va y avoir aussi, en parallèle de ces aides, le budget pluriannuel, puisqu'il faut savoir que ce plan de relance va s'inscrire en parallèle du budget pluriannuel qui a été voté pour l'Union européenne. Et bien, il va y avoir des programmes européens. Alors, c'est ça qui est intéressant, pas aussi important qu'on l'imaginait. C'est notamment un petit regret, j'allais dire, d'Ursula von der Leyen et de la Commission, parce qu'il y a plusieurs de ces programmes qui seront finalement moins bien doté, Christophe, qu'elle ne le souhaitait. Mais de manière globale, effectivement, il va y avoir des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui vont être alloués pour relancer l'économie de ces pays européens. Alors, le vrai débat, Christophe, c'est de savoir jusqu'à où vous mettez la jauge. C'est-à-dire, est-ce que vous maintenez, si je peux me permettre l'expression, sous respiration artificielle, l'économie parce que vous savez qu'elle va redémarrer dans un certain temps? Mais ça, vous ne pouvez pas le faire indéfiniment. Donc, c'est véritablement, j'allais dire, maintenant que la partie commence, parce que c'est voir comment est-ce qu'on va être capable de relancer l'investissement et la consommation dans ces pays européens pour assurer une croissance, non pas dans les prochains mois, mais une croissance à long terme, grâce en partie à ce plan de relance qui a été adopté et ce deal. Ce jour historique pour l'Europe, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, il y a maintenant 10 jours de cela.
Et si on parle d'un point de vue sanitaire, juste pour conclure la question du coronavirus, quid de la deuxième vague à travers le monde, mais du coup, quid de la deuxième vague en Europe également, avec une remontée du nombre de cas? On évite quand même ce mot de deuxième vague, même si la Belgique l'a quand même dit à demi-mot. Hein.
C'est intéressant, Christophe, parce qu'il y a vraiment un débat qui est évidemment à la fois, et c'est le plus important, sanitaire, mais qui est aussi sémantique. technique, hein, c'est-à-dire à partir de quand est-ce que vous appelez ça une deuxième vague, seulement une remontée des cas. Ce qui est sûr, en tout cas, Christophe, c'est que pour la population, en termes, j'allais dire, de communication du politique et du décisionnaire, à partir du moment où vous imposez plus de restrictions, à partir du moment où vous contraignez vos concitoyens à porter des masques, à partir du moment où vous interdisez les réunions en grand nombre, forcément, c'est parce qu'il se passe quelque chose du côté sanitaire. Alors, pour l'instant, officiellement, la terminologie de deuxième vague n'a pas été, j'allais dire, adoptée en Europe. Elle ne figure dans aucun texte officiel. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on est plutôt sur des tendances à la hausse de la remontée des cas. Et on va voir, j'allais dire, à partir de quand la Commission et les décisionnaires politiques européens vont considérer qu'on peut parler d'une seconde vague. Autre élément, Christophe, juste sur cette question d'épidémie et de seconde vague, ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne est aussi en train de se positionner par rapport au traitement et à la fiabilité de certains traitements. Alors, on ne va pas rentrer dans la polémique, Christophe, mais pour l'instant, la Commission, enfin l'Europe en général, l'Union européenne a l'air de plutôt botter en touche les solutions préconisées par notre cocorico national Didier Raoult et de s'orienter vers un autre type de traitement. Mais c'est aussi intéressant d'un point de vue de politique et de santé publique, c'est que l'Union européenne est aussi en train de se positionner non plus seulement du point de vue de la relance économique et de la sécurité de ses ressortissants, mais aussi est en train de prendre un petit peu du poids du point de vue sanitaire et de l'organisation d'une réponse globale sanitaire. Et c'est ça véritablement, Christophe, je pense qu'il va être intéressant de regarder, de monitorer, c'est de voir comment, alors que l'Europe a peut-être mis du temps à démarrer en mars dernier au moment de la première vague, bah comment l'Europe maintenant va s'organiser pour répondre non plus sur la question politique ou la question économique, mais également sur la question sanitaire par rapport au Covid-19 et à la potentialité d'une seconde vague.
Voilà, tout à fait. C'était en tout cas le point coronavirus. On va parler d'un autre sujet qui est peut-être un peu plus grand que ce qu'on peut croire dès le départ. Mais en Pologne, les choses deviennent de plus en plus tendues. Il y a eu une élection présidentielle il y a très peu de temps. Et on sent bien que la droite radicale, enfin en tout cas, ça se radicalise pas mal en Pologne. Et quand je dis un peu plus grand, c'est qu'en fait, ça se radicalise pas mal du côté de l'Est du continent européen.
Oui, Christophe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est en train de se passer en Pologne et ce qui se passe au niveau des institutions de l'Union européenne, c'est qu'il se dessine un mouvement où finalement, l'Union européenne est en train de prendre la mesure politique des choses et veut lier d'une certaine façon le respect à la fois des valeurs européennes, hein, l'égalité homme-femme, les droits de la famille, le droit et le respect des populations LGBTI. Elle veut lier ces valeurs-là au financement qu'elle pourrait apporter à certains des pays européens. Et c'est exactement ça qui s'est passé en Pologne, hein, c'est que la Commission a tout simplement dit qu'elle allait couper des fonds européens à des villes qui se disaient, et là je le cite évidemment Christophe, zones sans idéologie LGBT. Et c'est intéressant parce que finalement, ce positionnement de l'Union européenne, il n'est pas nouveau Christophe, parce qu'il date en fait d'il y a quelques mois de cela, où l'Europe avait déjà dit qu'elle conditionnerait certaines de ses aides au respect de l'état de droit en Hongrie, et notamment en réaction à certaines décisions et à certains positionnements de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Donc, on est en train de voir se dessiner aussi en Europe, si vous voulez, Christophe, l'application d'une jurisprudence de conditionnement des financements et des politiques européennes au respect de l'état de droit et au respect, j'allais dire, des valeurs européennes dans certains pays.
Et vous avez parlé beaucoup de la Hongrie. C'est vrai que la Hongrie, c'est un bon exemple par rapport à ça, parce que Orban a quand même a été plus ou moins franchi une ligne rouge de temps en temps quand même. Hein.
Oui, Christophe, exactement. Pour le rappeler à nos auditeurs, hein, Viktor Orban avait pris des positions qui étaient, j'allais dire, extrêmes, ou en tout cas qui ne correspondaient pas aux valeurs de l'Union européenne. Et l'Europe s'était déjà positionnée, avait dit que certaines vivres seraient coupées s'il n'y a pas ce respect de l'état de droit. C'est toujours, on parle toujours par rapport aux minorités sexuelles, minorités religieuses. Et là, ce qu'on voit aussi, Christophe, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus simplement de l'anecdotique, hein. C'est qu'il y a plusieurs, notamment sur ce cas polonais, il y a plusieurs commissaires européens, ce qui montre quand même l'implication des institutions. Il y a à la fois, évidemment, la commissaire européenne en charge du portefeuille à l'égalité, Elena Dalli, qui avait dit que six demandes de jumelage de villes polonaises qui ont adopté ces résolutions sur des zones franches, je cite LGBTI, ou sur des zones où les droits de la famille ont été rejetés, ben que ces financements allaient être coupés. Mais vous avez aussi le commissaire européen Christophe en charge du portefeuille de la justice, Didier Reynders, qui a tout simplement explicité que, et je le cite, la discrimination de quelque nature que ce soit ne peut jamais être tolérée dans l'Union européenne. Les valeurs de celles-ci doivent être respectées dans tous les programmes financés par l'Union européenne. Ça veut dire quoi aussi, Christophe ? Ça veut dire que finalement, dans ce jeu de la carotte et du bâton, ben la carotte, qui semble marcher en tout cas, et ben c'est la carotte financière, et certainement elle marchera d'autant plus qu'il y a beaucoup d'argent avec ce plan de relance qui va être injecté au sein des différents pays de l'Union européenne. Et donc intéressant de voir si ben ces contraintes ou ces menaces d'aide financière, elles vont avoir un impact sur les politiques menées au sein de ces pays. Alors c'est notamment des pays de l'Est, hein, on a parlé de la Pologne et on l'a dit aussi la Hongrie il y a quelques mois de cela. Donc véritablement presque une jurisprudence, j'allais dire, conditionnement des financements européens aux valeurs européennes qui est en train de se mettre en place petit à petit au sein de l'Union européenne.
Ouais, tout à fait. Alors, dans le reste d'actualité aussi européenne, il y a pas mal de sujets. J'aimerais bien qu'on aborde d'abord le cas chinois et la relation européenne avec la Chine qui évolue, mais l'Europe essaye encore de trouver sa place entre les deux gros mastodontes américains et chinois.
Oui, Christophe, alors, la relation avec la Chine, elle est compliquée pas seulement pour l'Union européenne en ce moment, elle est compliquée pour plein d'ensembles géopolitique dans le monde, mais véritablement ce qui a fait réagir l'Union européenne, et c'est en rapport, hein, Christophe, avec aussi ces valeurs que l'Union européenne est en train de, j'allais dire, de propager, en tout cas de porter comme un étendard de plus en plus assumé, c'est les sanctions qui sont en train, et la politique qui est en train de se mettre en place à Hong Kong, et notamment l'entrée en vigueur, Christophe, de cette loi dite de sécurité nationale, qui a entraîné véritablement des réactions géopolitiques en cascade dans le monde entier et notamment dans l'Union européenne. Et j'allais dire, Christophe, pour une fois, on voit une politique coordonnée de plusieurs grands blocs géopolitiques. On a parlé de l'Union européenne, mais c'est vrai aussi pour l'Australie, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour la Nouvelle-Zélande. On voit véritablement se dessiner des mouvements et des sanctions, en tout cas des esquisses de sanctions communes vis-à-vis du gouvernement chinois et dans l'application de cette loi de sécurité nationale à Hong Kong.
Et puis Europa Voice serait pas sans Europa Voice sans un dernier mot sur le Brexit. En fait, il se passe pas grand chose sur le Brexit. En anglais, on dirait que c'est un stalemate. C'est plutôt un peu figé, mais figé dans les deux coins. C'est-à-dire qu'en fait, on se dirige pour l'instant vers un no deal qui satisferait à la fois tout le monde et personne. En tout cas, la situation n'évolue pas beaucoup. On se parle pas beaucoup au niveau européen. On se parle pas beaucoup entre les Britanniques et les Européens à l'heure actuelle.
Non, Christophe. Alors le mois de juillet a effectivement été extrêmement occupé pour l'Union européenne, hein, avec ce plan de relance, mais aussi on l'a vu, hein, avec certaines élections nationales, hein, parce qu'il faut le rappeler, on a parlé d'exemples polonais, mais c'est parce que ça s'inscrivait aussi dans un contexte d'élections en Pologne. Non, ce qu'on peut dire, c'est que on se rapproche finalement de facto, j'ai envie de dire, de plus en plus vers la potentialité non pas du nil, mais la potentialité d'un no deal. Et c'est ce qui va, à mon avis, remuer bientôt les chancelleries européennes et du côté du Royaume-Uni. C'est que qu'est-ce qu'on veut véritablement à la fin de cette année de transition, hein? Encore une fois, on le rappelle pour nos auditeurs d'Europa Voice, d'SBS, c'est que le 31 décembre prochain, on arrive à la fin de cette année de transition. Il est plutôt acté que des deux côtés, même si on insiste plus d'un côté que de l'autre, mais les deux côtés en tout cas, on n'a pas envie de proroger cette année de transition. La vraie question, Christophe, c'est finalement, est-ce que le Royaume-Uni veut véritablement arriver à un deal et est-ce qu'il n'est pas en train un petit peu, par passivité, de diriger et de conduire les Européens vers un no deal? C'est véritablement ça, maintenant, je crois, Christophe, la question qui est en train de se poser. Et donc on va voir, hein, on a toujours notre négociateur en chef côté l'Union européenne Michel Barnier. On va voir dans les prochains mois comment cette situation va évoluer. Mais il est évident que ça va être quelque chose d'extrêmement prégnant sur l'agenda européen parce qu'encore une fois, maintenant, on n'a plus que 6 mois pour arriver à trouver un accord négocié entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathanaël.
Merci, Christophe.